Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h45 sur RTL, Benjamin Sportou, je vous recevais ce matin, François de Rugy, député de Loire-Atlantique et candidat écologiste à la primaire de la gauche.
Bonjour François. Bonjour. De Rugy, merci d'être avec nous ce matin. Vous publiez donc votre programme, un programme de 66 propositions pour les progrès, tous les progrès de la France. Et parmi ces propositions, eh bien, il y a très peu de pages sur la sécurité, alors que nous vivons des moments un peu particuliers avec l'attentat à Berlin. Est-ce que ce n'est pas le sujet prioritaire pour vous du moment ?
J'ai consacré un chapitre entier à la sécurité dans mon projet et ça me paraissait évident. Attentat de Berlin ou pas, je suis à travailler sur ces sujets depuis 5 ans à la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale.
Mais François, juste une chose sur la sécurité. Oui, vous en parlez sur la France, mais par exemple, contre la radicalisation, il y a très peu de choses à part le recrutement d'éducateurs spécialisés. Et sur la lutte contre le terrorisme, pas grand-chose.
Ce que je souhaite, c'est que la lutte contre le terrorisme et la sécurité en général ne soit pas un sujet de polémique politicienne. Vous avez vu d'ailleurs qu'en Allemagne, c'est quand même une grande différence avec la France. Après l'attentat de Berlin, la classe politique allemande ne se lance pas dans une polémique tous azimuts à part l'extrême droite. Alors qu'en France, quand on a eu les attentats, et notamment l'attentat de Nice, on a eu beaucoup de polémiques. C'est pour ça que je propose à Haut Conseil de sécurité intérieure que toute mesure de sécurité soit soumise à ce Haut Conseil et que ensuite ce Haut Conseil puisse également faire ses propres propositions et que la classe politique, en tout cas à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement, on puisse voter ses propositions dans un climat apaisé. Et il faut le faire, nous l'avons fait depuis 5 ans et il faudra continuer à le faire dans les années qui viennent.
Prenons une proposition concrète en matière de défense. Vous voulez réduire la dissuasion nucléaire parce que vous dites qu'elle coûte cher, alors que hier, le général de Villiers, qui est quand même le plus haut gradé de l'armée française, dit au contraire qu'il faut augmenter le budget de la défense et notamment en matière de dissuasion nucléaire. Est-ce que vous ne faites pas preuve de naïveté, d'angélisme en la matière.
Je crois que face aux menaces qui sont celles auxquelles la France est soumise aujourd'hui, la dissuasion nucléaire est de peu d'aide. Vous savez, j'ai fait une tribune il y a 2 ans avec Michel Rocard.
La Russie, la Turquie, tout ça, ce ne sont pas des
sur
des
la dissuasion nucléaire. Et par ailleurs, il y a un ancien ministre de la Défense socialiste également, Paul Quilès, qui le dit comme moi. Il ne s'agit pas de supprimer, bien sûr, la dissuasion nucléaire. Il s'agit simplement de dire quelles sont nos priorités stratégiques et budgétaire.
Mais est-ce que vous êtes
d'un point de vue stratégique et budgétaire, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les menaces d'aujourd'hui, quand on intervient au Mali, si on devait intervenir en Syrie, c'est pas avec la bombe nucléaire, c'est avec des dispositifs qui soient adaptés pour se projeter à l'extérieur. Or, aujourd'hui, la France, malheureusement, parce qu'elle a consacré beaucoup de budget, elle a mangé beaucoup de budget, notamment dans la dissuasion nucléaire, n'est pas capable de se projeter de façon autonome. Vous savez que les rafales, eh bien, ils ne peuvent pas être ravitaillés en vol par des avions français.
Mais vous maintenez la dissuasion nucléaire tout de même. Vous voulez diminuer, mais vous la maintenez.
Oui, je propose de supprimer une des composantes, comme l'ont fait les Britanniques il y a 20 ans.
Et ça, vous dites que c'est
ça
quand
dégage
même,
du budget ça dégage du budget pour financer la sécurité, notamment dans la lutte contre le terrorisme.
À 2% du PIB, c'est 7 milliards de plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition ? Vous dites on a suffisamment de moyens aujourd'hui financiers pour l'armée.
J'ai lu avec attention la tribune du général de Villiers et ce qu'il dit, en gros, c'est on maintient l'armée française telle qu'elle est. On maintient les orientations stratégiques du livre blanc de la défense d'il y a 4 ans et on met plus de budget. Eh bien moi je dis non, je dis dans ce domaine-là comme dans d'autres, ce qu'il faut c'est d'abord se poser la question de nos objectifs, de dire voilà quels sont les moyens dont nous avons besoin en face. Par exemple aujourd'hui, et nous n'y pensions pas il y a 5 ans, nous pensons qu'il faut de nouveau des soldats de l'armée de terre qui agissent sur le sol national, avec l'opération Sentinelle qui vient en soutien de l'opération policière du plan Vigipirate.
Eh
bien, ça veut dire adapter nos moyens. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que les soldats français qui sont dans cette opération, ils font parfois 100 ou 200 kilomètres pour venir à Paris, surveiller Paris, et c'est du temps perdu, c'est de l'énergie perdue et c'est de l'argent perdu.
Mais alors, qu'est-ce que vous faites justement avec ces gendarmes ? La légitime défense a été un sujet en Conseil des ministres hier. Les policiers vont avoir une extension de cette légitime défense. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
Oui, je suis pour et depuis toujours.
D'accord. Donc vous n'avez, à votre avis, il y a un redéploiement des moyens, mais pas besoin d'en mettre davantage.
Il faut sans cesse se poser la question de qu'est-ce qui est le plus efficace. Et c'est évident qu'il faut adapter notre outil de défense extérieure et intérieure, notre outil policier, judiciaire face aux nouvelles menaces, le terrorisme. Mais je voudrais aussi que sur la sécurité, on n'oublie pas les autres.
Vraiment, dans votre programme, vous n'avez pas l'impression d'avoir péché en la matière.
Je peux vous dire que depuis 5 ans que j'interviens sur ces sujets à l'Assemblée nationale, à la Commission de la Défense, en général, ce qui surprend ceux qui m'écoutent, c'est qu'un écologiste dise ce que j'ai dit depuis 5 ans, que moi j'ai toujours considéré que la sécurité est une priorité. On parle de la menace terroriste, on pourrait parler d'autres menaces. Regardez ce qui se passe en Syrie, c'est aussi la menace du régime de Bachar al-Assad, c'est la menace russe. Moi, je veux parler de la menace du régime Poutine en Europe, sur l'Europe. Regardez ce qui s'est passé en Ukraine. Et quand je vois qu'en France, des gens comme Fillon veulent faire une alliance avec Poutine, je suis extrêmement inquiet.
Sa réponse ne vous a pas satisfaite, justement, sur vous l'accusiez d'être financé par les Russes.
Il ne répond pas. D'abord, François Fillon, là, il est aux abonnés absents depuis plusieurs semaines, il ne s'exprime pas. Et moi, je pose une question simple sur les financements de sa société de conseil. C'est qu'il donne ses clients, tout simplement. La liste des clients, les sommes en face. C'est simple, il y a un déontologue à l'Assemblée qui est fait pour ça, qu'il le fasse.
Donc
moi, je crois que ce que je vois. Et puis, par ailleurs,
sur le fond,
il faut avoir un débat sur quelle alliance stratégique. Moi, je propose dans mon programme qu'on ait une alliance militaire européenne, France, Allemagne, Pologne, pour faire face à la menace russe de Poutine et aux désengagements américains.
On vous a entendu, François de Rugy, sur la primaire. Maintenant, venons-y. Donc, vous êtes candidat à cette primaire de la gauche. Est-ce que vous vous imaginez vraiment à l'Élysée, François de Rugy?
Quand on se lance dans la primaire, on fait les choses jusqu'au bout. Moi, je présente justement un projet. Et c'est pour ça que moi, vous avez dit maintenant, passons à la primaire.
Vous n'êtes pas dans une candidature de témoignage.
Je présente 66 propositions. Je constate d'ailleurs que tous les candidats n'ont pas fait cet effort pour l'instant, ce qui est quand même un petit problème puisqu'on est à quelques semaines du vote, du 22 janvier.
Vous pensez à Manuel Valls et Vincent Peillon,
notamment,
vous trouvez ça anormal qu'ils n'aient pas
notamment,
développé leur programme?
Et notamment, Manuel Valls, il a son action de Premier ministre, etc. Il s'est beaucoup exprimé, mais Vincent Peillon, il n'était pas dans le débat politique depuis 2 ans et demi. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que oui, quand on se présente à une primaire, on doit tout dire, tout mettre sur la table. Et donc, moi, je suis prêt à répondre à toutes les questions parce que j'ai mis sur la table des propositions.
Mais alors, quel score vous visez au premier tour, François de Rugy?
Vous savez, moi, je fais de la politique. Je ne fais pas du tiercé. Vous avez d'ailleurs d'excellents spécialistes du tiercé sur RTL. Je ne pense pas que ce sont des journalistes politiques.
Vous pensez passer la barre du second tour?
Et je ne vais pas voir Madame Irma pendant mes vacances. Donc, par ailleurs, je considère que je me bats pour convaincre, rassembler le plus largement possible. Et puis, ce sont les électeurs qui trancheront. C'est la différence de la primaire avec d'autres processus de parti, par exemple. C'est qu'à la fin, c'est les citoyens qui ont le dernier mot. Et c'est très bien ainsi.
Alors, à droite, il y avait Jean-Frédéric Poisson. Chez vous, il y a vous. Il y a Sylvia Pinel, qu'on connaît peu ou très peu. Il y a Jean-Luc Benamias aussi, qui est totalement inconnu. Est-ce que ça ne fait pas 3 candidatures, là aussi, qui vont peut-être mettre cette primaire, certains disent, une primaire au rabais? Est-ce que cela vous choque quand on dit ça? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes pas ces candidats qui vont un peu noyer le débat?
On a tout entendu sur cette primaire, y compris qu'elle n'aurait pas lieu. Et vous voyez que maintenant, tout est prêt et tout est en place. Il y a des candidats comme moi qui ont fait, mais je ne suis pas le seul, qui ont fait évidemment le travail, parce que ça prend des mois de faire un programme, de faire des rencontres qui permettent d'échanger avec des professionnels de différents secteurs, etc. Et regardez ce qui s'est passé avec la primaire de la droite. On nous avait dit, 7 candidats, on n'y arrivera pas. On a eu des débats.
Il y avait des anciens premiers ministres. Là, vous avez
pas un ancien président qui a été éliminé dès le premier tour. Ce que je veux dire, c'est que nous allons avoir 3 débats. Au mois de janvier.
Vous pensez faire la différence
et
à ce moment-là?
Ces 3 débats, c'est fondamental, parce que d'abord, c'est la démocratie. C'est comme ça que ça fonctionne, la démocratie. Et chaque candidat est sur un pied d'égalité, il doit répondre aux mêmes questions avec le même temps de parole. Et c'est à l'issue de ces débats que les Français choisiront le 22 janvier.
Vous n'êtes pas là pour montrer votre bobine, comme l'a dit Didier Guillaume, un valsiste en début de semaine à propos de Benoît Hamon. C'est pas votre rayon.
Et Benoît Hamon, il a fait l'effort, par exemple, lui aussi, de présenter un projet.
Moi,
je suis prêt à débattre avec Benoît Hamon comme avec les autres. Alors, avec Arnaud Montebourg, avec Manuel Valls, avec Vincent Peillon, et ainsi de suite.
Si jamais Manuel Valls remporte la primaire, les premiers sondages le portent à ce niveau-là, c'est ce qu'il nous indique. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le soutenez? Vous soutiendrez n'importe quel candidat qui l'emportera, cette primaire, y compris Manuel Valls?
Quand on s'engage dans la primaire, on s'engage dans un processus de rassemblement. Il y a un débat, il y a un vote, et ensuite, il y a un rassemblement autour d'un candidat. Et donc, je participerai au rassemblement, évidemment, sinon ça ne sert à rien.
Mais il y a beaucoup de propositions sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Est-ce que vous demandez l'évacuation vous êtes contre l'instauration de cet aéroport, lui est pour. Comment vous pouvez dépasser?
Je pense pas que l'avenir de la France se joue à Notre-Dame-des-Landes. Hein. Je m'excuse de vous le dire, mais enfin, je connais bien la Loire Atlantique puisque j'y suis né et que j'en suis l'élu depuis plus de 15 ans. Et non, l'avenir de la France ne se joue pas à Notre-Dame-des-Landes. Et par ailleurs, vous avez vu la position du Premier ministre Bernard Cazeneuve. Eh bien, je suis sur la même position.
Donc, vous ne voulez pas d'évacuation de Notre-Dame-des-Landes?
Je pense qu'on a. On parlait de sécurité au début de notre entretien, qu'il y a d'autres priorités. Mais enfin, franchement, je vous le dis, la primaire ne se jouera pas là-dessus. Elle se jouera sur des enjeux économiques pour l'avenir de la France. Qu'est-ce qu'on fait pour l'écologie, qu'est-ce qu'on fait pour l'éducation, qu'est-ce qu'on fait pour la sécurité, pour la santé, hein, face au programme de la droite, il faut quand même qu'on ait des propositions claires comme j'en fais.
Sur l'écologie, c'est le gros morceau de votre programme, là pour le coup il y a beaucoup de pages là-dessus, et votre ambition en effet, c'est plus aucune voiture à essence ou diesel d'ici 2025,
oui.
On passe à l'électricité, vous savez combien sont
l'électrique et à l'hybride électrique.
Combien sont vendues aujourd'hui de voitures électriques en France?
Oui, on est à quelques dizaines de milliers.
Même pas 18 000, François Dorigé. C'est 1% du parc automobile. Une voiture électrique, ça coûte 25 000 euros en moyenne.
Non, la Zoé, sans vouloir faire de la publicité pour le constructeur national, est à 15 000 euros.
Je le tiens, nos spécialistes auto ici, y compris avec le bonus donné par l'État. Est-ce que ce n'est pas une politique un peu illusoire, anti-classe moyenne et classe populaire?
Mais pas du tout. Il s'agit de faire une mutation. D'engager une mutation que d'autres pays ont engagée. La Norvège, ça y est, elle a déjà voté cette mesure que je propose. Regardez, il y a 5 ans, en France, 75%, plus de 75% des voitures neuves vendues étaient au diesel. Aujourd'hui, on est à 50%. Et vous voyez que c'est d'ailleurs essentiellement les consommateurs qui ont fait ce chemin. Vous pouvez demander à tous les constructeurs, à tous les concessionnaires, ils vous diront, de toute façon, les gens qui rentrent dans nos concessions maintenant, ils n'en veulent plus du diesel, ils veulent des voitures moins polluantes et des voitures essence. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir un objectif. C'est ça, notre rôle politique, c'est de fixer un objectif. Puis les constructeurs, ils vont se mettre en mouvement, ils sont déjà en train de le faire.
Et vous pensez que vous pourrez lutter, vous, tout seul, contre les lobbies? Ou est-ce qu'il n'y a plus de lobbies en France, des lobbies pétroliers? Est-ce que c'est encore un problème? C'est ça qui empêche le développement de la voiture électrique en France?
Oh, c'est souvent l'inertie politique, parce qu'on veut développer la voiture électrique, puis à côté on laisse le diesel. Mais regardez, Renault, premier constructeur national, qui a fait le choix de l'électrique et qui aimerait bien que ça se développe davantage. Mais d'autres constructeurs le font partout en Europe.
Merci beaucoup François Dorigé. Bonne journée à vous.
Face aux nouvelles menaces, la sécurité est une priorité, mais on a d'abord besoin d'un redéploiement avec une évaluation et non d'une augmentation des budgets, nous a notamment dit François de Rugy. L'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux.
RTL Matin, 7h57, Yves Calvi.